franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, la sexualité est-elle naturelle? Faut-il l'apprendre? Avec Michel Bauzon et Mireille Bonnierbal.
Ben oui, ça s'apprend. Hein. Si on n'apprenait pas et si on n'avait pas des tas d'exemples autour de nous qui nous disaient comment faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. On parle sans arrêt d'éducation à la sexualité parce qu'on sent parfaitement que c'est quelque chose qui tout seul ne donne rien. En fait, ça n'est pas un besoin biologique de reproduction et c'est pas une simple expression évidente de l'amour. En fait, c'est 10 000 choses en même temps.
Ouais.
Et donc, ça s'apprend, mais ça s'apprend pas seulement à partir d'idées sur la sexualité. Ça s'apprend à partir des tas de choses qui nous apprennent à être des hommes et des femmes, d'une certaine manière, qui nous apprennent à être adultes. C'est à travers tout ça qu'on apprend aussi des choses sur la sexualité, aussi à travers ce que font nos pères autour de nous, nos pères, c'est-à-dire ceux qui ont le même âge que nous. Donc, on apprend de toutes ces manières-là. On n'apprend pas seulement dans les livres.
Ouais. Mireille Bonnierbal, vous êtes d'accord avec cela, justement, sur cet apprentissage, au fond, de la sexualité?
Alors, il y a tout un côté apprentissage tout à fait réel en cela que j'ai souvenir d'expériences qui montrent que un petit singe élevé seul dans une cage, lorsqu'il se trouve face pour la première fois de sa vie à une femelle, ne sait pas quoi faire de son érection et il tape avec son sexe érigé sur la femelle, mais n'importe où, il ne sait pas où le mettre, si je peux me permettre.
Donc ça s'apprend pour savoir où le mettre.
Donc il y a quelque chose qui s'apprend, mais il ne faut pas faire, comment dirais-je, un élargissement trop important, parce que j'ai vu des collègues qui, fort de ces idées-là, pouvaient montrer à leur enfant comment les papas et les mamans faisaient pour faire l'amour. Et là, on arrive à des pratiques qui peuvent être curieuses et qu'il faut,
c'est moins qu'on puisse
dire, avoir un certain regard.
Donc, absolument.
Donc il est certain que le contexte, tout ce qui est environnemental va façonner petit à petit la façon de percevoir les fantasmes, les aspects cognitifs de l'enfant et que cela influe sur sa façon d'apprendre.
Mardi, que se passerait-il en cas de super éruption d'un volcan? Les réponses de Jacques-Marie Bardenzeff et Georges Boudon.
Donc quand on prend les grandes éruptions, hein, donc c'est ce qu'on appelle les super éruptions, on en a parlé il y a quelques années, hein, ces super éruptions, en particulier avec la caldeira de Yellowstone qui a subi un certain nombre de grandes super éruptions avec des volumes de 1000-2500 km3 émis à chaque éruption. Et donc ça, bien sûr, ça entraîne des quantités de cendres. On a parlé de la Glafol tout à l'heure qui avait amené des cendres sur l'Europe, mais là c'est des centaines de kilomètres cubes de cendres qui vont être projetés dans l'atmosphère et qui vont avec les courants, les vents
être étalés en fait,
être étalés sur tout le globe.
Et occultant donc la lumière du soleil.
Occultant la lumière. Alors, à la fois les cendres et puis ce qu'on appelle c'est les aérosols, les petites particules de soufre qui vont se mélanger à l'eau et qui vont faire de l'acide sulfurique et qui vont rester en suspension très longtemps, beaucoup plus longtemps que les cendres. Et donc ça peut entraîner des réductions de la
température,
de rayonnement et donc de la température. Et si ça se produit pendant plusieurs années ou plusieurs décennies, et ben ça peut avoir des effets catastrophiques.
Quel nombre de degrés à peu près en moins? Si justement le soleil est obstrué.
Mais on a regardé les dernières éruptions, par exemple l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1990-91. Il y a eu 10 km3 de magma qui ont été émis et ça a entraîné une baisse de température de l'ordre du demi degré dans l'année qui a suivi.
Demi degré, mais ça pourrait être beaucoup plus important encore.
Ça pourrait être beaucoup plus, et surtout s'il y a des grosses quantités, ça peut être plusieurs degrés et pendant plusieurs années. Et donc ça peut avoir des effets extrêmement extrêmement graves.
Ce sont ces super volcans qui ont participé à la disparition des dinosaures, en tout cas, c'est ce qu'on dit, épisode volcanique avec la météorite. En tout cas,
ils sont accusés. C'est vrai que donc une éruption type Yellowstone pourrait faire baisser la température du globe d'environ 10 degrés.
Énorme.
Ça serait une catastrophe écologique.
Énorme.
Hein.
Oui.
Ça a été modélisé par nos collègues américains. Donc, s'il y avait une nouvelle éruption à Yellowstone, comme il y a eu il y a 640 000 ans, ça serait 100 km autour, tout est détruit comme avec une bombe atomique. Ça serait les États-Unis sous la cendre. et ça serait les glaces qui arrivent et que les ports d'Anvers et d'Hambourg sont dans la glace. Donc il faut mieux pas imaginer parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et il y a eu des éruptions encore plus importantes, mais surtout pendant encore plus longtemps, notamment il y a 65 millions d'années en Inde, dans la région du Deccan. C'est une région qui est grande comme la France, qui est recouverte de 2 km d'épaisseur de lave, plus dans la mer. Donc on pense que ça a eu un impact énorme au niveau écologique, et en tout cas ça a dû beaucoup altérer la vie animale et végétale, peut-être la fin des dinosaures, il y a eu d'autres événements, mais en tout cas ces éruptions volcaniques majeures ont un impact écologique important.
Mercredi, Catherine Thomas-Antérion nous racontait comment suite à une lésion au cerveau, une personne était devenue subitement hypercréative.
Moi, je me suis plutôt intéressée à des personnes qui n'avaient pas jusque-là manifesté d'appétence artistique particulière, qui, suite à une maladie neurologique, notamment une patiente à laquelle je me suis beaucoup intéressée, qui avait fait une toute petite lésion du cerveau dans un tout petit endroit qui faisait moins de 5 mm de taille, qui avait constaté que quelques mois après cette lésion, elle avait eu une espèce d'envie irrépressible d'aller acheter des pinceaux, des tubes de couleurs et des toiles. Et elle s'était mise à peindre, sans bien comprendre pourquoi. Et elle s'est mise, cette personne, à peindre un tableau par jour, puis deux tableaux par jour, etc. Et quand je l'ai rencontrée pour autre chose, on a été amené à parler de ça. Elle m'a montré un book qu'elle avait fait, tellement elle était contente de cette activité qu'elle avait mise en place, où il y avait à peu près 150 tableaux. Et on s'est aperçu que 95% d'entre eux étaient d'une palette chaude. Voilà. Et après, ça a donné lieu à tout plein de commentaires et de réflexions, car cette dame s'est rendue compte à ce moment-là qu'effectivement, elle peignait ses couleurs, non pas qu'elle les aime plus que d'autres, quoique, mais surtout parce que quand elle peignait ses couleurs chaudes, elle diminuait les douleurs qu'elle ressentait au niveau de son hémicorps qui avait été lésé par la lésion dont je vous ai parlé. Comme si la création artistique, la couleur, venait au secours de sa douleur. Et on en avait déduit qu'elle avait probablement révélé une synesthésie, c'est-à-dire une association bizarre entre couleur, chaleur, froid, douleur, qu'elle avait auto-générée et qui finalement remplit encore sa vie 5 ans après cette lésion, au point qu'elle fait des expositions, qu'elle vend son travail, etc. Donc c'est il y a des choses absolument insensées.
Très étonnant. À quoi ressemblaient ces tableaux alors ? Qu'est-ce qu'elle dessinait ?
Alors, elle dessinait, c'était une personne qui était originaire de l'île Maurice, je peux le dire parce qu'elle m'y autorise. Donc, elle dessinait beaucoup de décors des îles, avec des personnages souvent féminins qui étaient dans des barques, qui allaient au marché, etc. C'était très inspiré de son enfance. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle maniait les juxtapositions de couleurs et de formes de façon quasiment, enfin, complètement autodidacte, de façon formidable. On avait montré ça à des professeurs d'art qui eux-mêmes étaient assez estomaqués du coup de pinceau, des rapports quasiment innés entre les formes et les couleurs dans ses dessins et ses peintures.
Jeudi, avec ou sans chaussures, la marche avec Pascal Pic.
Jamais un évolutionniste, surtout moi, vous dira que l'évolution est parfaite. Mais le pied, c'est quand même une mécanique assez extraordinaire, comme le sabot du cheval, ça c'est très clair. Derrière cela, on disait, alors ça c'est une vision aussi, vous voyez, c'est pour ça que j'ai abordé ce livre à travers la philosophie, c'est l'idée que le progrès, c'est se dégager de la nature. Vous savez qu'il y a un grand courant de la pensée occidentale en philosophie qui dit que plus on est civilisé, plus on est loin de la nature. Vous remarquerez que toutes les oppressions, notamment sur les femmes, c'est sur la marche. On leur bloque les pieds, c'est les bandages des Chinois, on les fait marcher avec des petits pas. Hein. Toutes les oppressions passent par les pieds. Ça, c'est vraiment très important. Alors que la marche, elle libre, c'est celle de la liberté. Donc, on a oublié comme quoi les pieds sont au cœur de nos rapports au monde et, et à la société. Et l'autre chose étant, en faisant ce livre, je suis allé voir ce qui se passe, effectivement, depuis les années 80, ou là, une marque qu'on ne peut pas citer, mais qui s'est dit, voilà, on vous fait des chaussures qui amortit les chocs, etc. Alors là, c'était malheureusement ouvrir les cabinets des orthopédistes, etc. Et il y en a qui ont dit, mais parce que le pied n'est pas adapté à la chaussure, le pied n'est pas fait pour la marche. Ça a été des milliers de cas de traumatisme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les meilleurs coureurs, alors d'ailleurs, je parle d'une ethnie qui est extraordinaire, qui s'appelle les Tarahumaras, parmi d'autres, qui sont dans le nord du Mexique. Alors eux, ils courent qu'avec des sandales. Alors là, il y a toute une histoire extraordinaire, parce que ces gens-là, ils courent dans les montagnes, dans des terrains qui sont extrêmement escarpés, avec des chaussures très plates, avec des sandales. Ouais. Alors ils ont un équilibre, une vélocité, une motricité absolument extraordinaire, et on a l'impression qu'ils courent sans se fatiguer, mais 40-50 km par jour. Alors, l'histoire est rigolote parce que les grandes marques se sont dit, tiens, dans les ultra-marathons, les ultra-trails, qui sont quand même 100, 200 kilomètres dans des conditions très compliquées, on va amener les Tara Humaras. Alors qui d'abord ont pas l'esprit de compétition, ils s'en foutent. Oui. Et deuxièmement, à un moment, ils leur ont donné des chaussures.
Et voilà, catastrophe.
Alors, donc qu'est-ce qu'on fait les Tara Humaras? D'habitude, ils partaient tranquilles parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner. Oui. Donc ils partent à fond avec leurs chaussures de marque. 5 kilomètres plus tard, ils se débarrassent des chaussures et remettent leurs sandales, ils gagnent et remettent les chaussures juste avant l'arrivée. Et donc du coup, ils sont aperçus que, évidemment, ces chaussures, alors aujourd'hui ça a changé bien sûr, mais les années 80-90, avec la mode du jogging, des ultra-trails, ont été absolument traumatisantes pour des milliers et des centaines de milliers d'athlètes.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.